Tôt le lendemain matin, Sophie fut réveillée par sa mère qui était montée lui dire au revoir avant d'aller à son travail et lui remit par la même occasion la liste des dernières courses à faire en ville en prévision de la réception. Dès qu'elle fut partie, le téléphone sonna. C'était Alberto. À croire qu'il savait exactement quand il était sûr de la trouver seule. Alors, ça avance ton petit complot?
Chut, pas un mot. Ne lui donne même pas une chance de deviner de quoi il s'agit.
Je crois que j'ai su retenir son attention hier.
C'est bien.
Il reste encore des cours de philosophie?
Je t'appelle justement pour ça. Nous en sommes déjà à l'époque contemporaine. Je pense que tu devrais pouvoir t'en tirer toute seule à partir de maintenant. Le plus important, c'était les bases. Mais j'aimerais quand même qu'on se voie pour en parler un peu.
Mais il faut que j'aille en ville.
Ça tombe bien, puisque nous allons parler de l'époque actuelle.
Ah hein?
Autant être en plein dedans, si tu vois ce que je veux dire.
Tu veux que je vienne chez toi?
Mais non, pas chez moi. En plus, il y a une de ces pagailles. J'ai tout mis sans dessus dessous pour vérifier s'il n'y avait pas de micro caché.
Oh!
Non, il y a un nouveau café qui vient d'ouvrir juste en face de la place du marché. Le café Pierre. Tu vois où il est?
Oui. À quelle heure on se donne rendez-vous?
Disons, à midi.
D'accord. À midi au café.
Alors je t'en dirai plus tout à l'heure.
Salut!
Peu après midi, Sophie fit son entrée au café Pierre. C'était un de ces nouveaux lieux à la mode avec des tables de bistrot et des chaises noires. Derrière le comptoir s'alignaient des bouteilles d'alcool la tête en bas avec un bec verseur, des baguettes beurrées et des portions de salade individuelles. La salle n'était pas très grande et la première chose qui sauta aux yeux de Sophie, c'était qu'Alberto n'était pas là. Il y avait foule et elle dévisagea rapidement chaque personne dans l'espoir de le découvrir parmi tout ce monde. Elle n'avait pas l'habitude d'aller seule au café. Peut-être valait-il mieux qu'elle ressorte et revienne voir un peu plus tard s'il était arrivé. Non. Finalement, elle alla au comptoir et commanda un thé citron. Puis, elle emporta sa tasse et s'assit à une table libre, en gardant les yeux fixés sur la porte d'entrée par où entraient et sortaient beaucoup de gens. Mais Alberto ne venait pas. Si au moins elle avait eu un journal. Pour s'occuper, elle finit par jeter un coup d'œil autour d'elle. Elle eut droit à quelques regards en retour, et tout à coup, Sophie se sentit promue au rang de jeune femme. Elle n'avait que 15 ans, mais en paraissait bien 17, ou disons 16 et demi. Que pouvaient bien penser tous ces gens, assis au café, de leur existence? Ils semblaient se trouver là par hasard, ils avaient vu la porte ouverte et étaient entrés. Ils discutaient et gesticulaient, mais leur sujet de conversation paraissait complètement futile. Il lui revint en mémoire une phrase de Kierkegaard disant qu'une des caractéristiques les plus significatives de la foule était ce verbillage. Est-ce que tous ces gens vivaient au stade esthétique? Ou y avait-il quand même quelque chose d'existentiellement important pour eux? Dans une de ses premières lettres, Alberto avait écrit qu'il y avait une parenté entre les enfants et les philosophes. De nouveau, Sophie sentit qu'elle avait peur de devenir adulte. Et si elle aussi choisissait de vivre bien enfouie dans la fourrure du lapin blanc qu'on avait fait sortir du chapeau haute forme de l'univers? Elle n'avait pas quitté des yeux la porte d'entrée depuis un bon moment lorsqu'elle aperçut enfin Alberto qui se précipita à l'intérieur. On avait beau être en été, il avait gardé son béret noir sur la tête. Il portait une veste longue avec un motif gris. Il la repéra immédiatement et alla vite la rejoindre. Sophie se rendit compte qu'il ne s'était encore jamais donné rendez-vous dans un lieu public.
« Tu as vu l'heure? Il est midi et quart, espèce de goujat !»«
C'est ce qu'on appelle le quart d'heure autorisé, non? Puis-je offrir à cette demoiselle quelque chose à manger ?» Il s'assit et la regarda droit dans les yeux. Sophie se contenta de hausser les épaules.
« Oh, ça m'est égal. Un sandwich, si tu veux. »
Alberto alla commander et revint avec une tasse de café et deux sandwichs au fromage et au jambon.
C'était cher?
Laisse, Sophie, ce n'est rien.
Est-ce que tu as au moins une excuse pour arriver à cette heure-ci?
Non, je n'en ai pas, car je l'ai fait exprès. Attends, je vais t'expliquer.
Il commença par mordre dans son sandwich, puis reprit. Nous allons parler de notre propre siècle. Est-ce qu'il s'y est passé quelque chose d'important sur le plan philosophique?
Oui, beaucoup de choses. Tellement que ça va dans toutes les directions.
Nous allons d'abord parler d'un courant déterminant, celui de l'existentialisme. On regroupe sous ce terme divers mouvements qui ont tous leur origine dans la situation existentielle de l'homme. Nous parlons à ce titre de la philosophie de l'existence du XXe siècle. Plusieurs de ces philosophes de l'existence, ou existentialistes, sont partis de Kierkegaard, mais aussi de Hegel et Marx. Je comprends. Un philosophe qui joue un rôle clé pour tout le XXe siècle, c'est Friedrich Nietzsche, un philosophe allemand qui vécut de 1844 à 1900. Lui aussi s'était élevé contre la philosophie de Hegel et l'historicisme allemand. Il opposa, à cet intérêt désincarné pour l'histoire et à ce qu'il appelait une morale d'esclave chrétienne, la vie elle-même. Il voulut opérer une transmutation de toutes les valeurs afin que l'épanouissement des forts ne soit pas entravé par les faibles. Selon lui, le christianisme et la tradition philosophique s'étaient détournés du monde réel pour montrer le ciel ou le monde des idées. Mais c'est précisément ce qu'on a voulu faire passer pour le vrai monde qui se révèle un monde illusoire. « Sois fidèle à la terre, » disait-il. N'écoute pas celui qui te promet une vie meilleure dans l'autre monde. Eh bien, quelqu'un qui a aussi été fortement influencé par Kierkegaard et Nietzsche, ce fut le penseur existentialiste Martin Heidegger. Mais j'aimerais plutôt te parler de l'existentialiste français Jean-Paul Sartre, qui vécut de 1905 à 1980. C'est vraiment lui qui fut le chef de file des existentialistes, du moins pour le grand public. Il développa sa thèse de l'existentialisme surtout après la guerre, dans les années 40. Puis, il fut proche du mouvement marxiste, sans pour autant appartenir à aucun parti. C'est pour ça que tu m'as donné rendez-vous dans un café français. Ce n'est pas un hasard, en effet. Sartre fréquentait beaucoup les cafés. C'est d'ailleurs dans un de ces cafés qu'il rencontra sa compagne, Simone de Beauvoir. Elle aussi était une philosophe existentialiste. Une femme philosophe? Tu as bien entendu. Ça fait plaisir d'apprendre que l'humanité commence enfin à se civiliser. Encore que notre époque connaisse de nombreuses préoccupations d'un ordre très différent. Tu devais me parler de l'existentialisme. L'existentialisme est un humanisme, déclara Sartre. Il voulait dire que les existentialistes n'ont pas d'autre point de départ pour leur réflexion que l'homme lui-même. Cela dit, la perspective est autrement plus sombre dans cette forme d'humanisme que sous la Renaissance. Pourquoi ça? Kierkegaard était chrétien, comme certains philosophes existentialistes de notre siècle. Mais Sartre fait partie de la branche dite athée de l'existentialisme. On peut considérer sa philosophie comme une analyse impitoyable de la situation de l'homme après la mort de Dieu. L'expression est de Nietzsche. Continue. Le mot-clé de la philosophie de Sartre, comme pour celle de Kierkegaard, est le mot « existence ». Mais ce terme ne reflète pas uniquement le fait d'exister. Les plantes et les animaux aussi existent. Ils vivent eux aussi, avec cette différence qu'ils n'ont pas à se soucier de ce que cela signifie. L'homme est le seul être vivant qui soit conscient de sa propre existence. Être un homme, ce n'est pas comme être une chose. Ça me paraît assez évident. De la même façon, Sartre prétend que l'existence précède toute signification qu'on veut en donner. Le fait que j'existe précède la question de savoir ce que je suis. L'existence précède l'essence, dit-il. Oh, c'est une phrase compliquée, ça. Par essence, nous entendons ce qui constitue une chose, c'est-à-dire sa nature ou son être. Mais Sartre ne pense pas que l'homme ait une nature innée de cet ordre. C'est à l'homme de se créer lui-même. Il doit créer sa propre nature, son essence, parce qu'elle n'est pas donnée au départ. Je crois comprendre ce que tu veux dire. Dans toute l'histoire de la philosophie, les philosophes se sont interrogés sur l'essence de l'homme, sur sa nature. Mais Sartre pensait que l'homme ne possède pas une nature éternelle de ce genre. C'est pourquoi se poser des questions sur le sens de la vie en général n'a aucun sens. Nous sommes, en d'autres termes, condamnés à improviser. Nous sommes ces acteurs qu'on a poussés sur scène sans qu'on leur ait distribué de rôles bien définis, sans manuscrit en main et sans souffleur pour nous murmurer ce que nous avons à faire. Nous seuls devons choisir comment nous voulons vivre. Au fond, c'est vrai. Ce serait trop commode s'il suffisait d'ouvrir la Bible ou un quelconque ouvrage de philosophie pour savoir comment nous devons vivre.
Tu as tout compris.
Mais quand l'être humain prend conscience de son existence, de la mort qu'il attend un jour, et qu'il ne trouve pas de signification à laquelle s'accrocher, il est saisi d'angoisse, dit Sartre. Tu te rappelles peut-être que Kierkegaard lui aussi décrivait l'angoisse comme étant caractéristique de la situation existentielle de l'homme. Oui. Sartre ajoute que l'homme se sent étranger, de trop, dans un monde dépourvu de sens. Quand il décrit cette étrangeté au monde, il rejoint les thèses de Hegel et Marx. Ce sentiment d'être un étranger sur Terre crée un sentiment de désespoir, d'ennui, de dégoût et d'absurdité. Il y en a encore beaucoup qui pensent que tout est pourri et que le monde est foutu. Oui, Sartre décrit l'homme de la ville au XXe siècle. La Renaissance, tu t'en souviens, avait montré de façon quasi triomphale la liberté et l'indépendance de l'homme. Alors que pour Sartre, la liberté est un poids terrible. L'homme est condamné à être libre, dit-il. Condamné parce qu'il ne s'est pas créé lui-même, et cependant libre. Car une fois qu'il est jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. Nous n'avons demandé à personne de nous créer en tant qu'individu libre. C'est bien l'avis de Sartre. Mais de fait, nous sommes des individus libres. Et notre liberté fait en sorte que nous sommes toute notre vie condamnés à faire des choix. Il n'existe aucune valeur ou norme éternelle pour nous guider, d'où l'importance du choix. Nous sommes entièrement responsables de nos actes. Sartre insiste beaucoup sur ce point. L'homme ne peut pas rejeter la responsabilité de ses propres actes sur autrui ou sur autre chose. Nous devons assumer nos propres choix et non prétendre que nous devons aller travailler ou que nous devons tenir compte des convenances de la société bourgeoise pour savoir comment nous allons vivre. Quelqu'un qui subit ces pressions de l'extérieur devient un être anonyme qui se fond dans la masse. Cette personne se ment à elle-même pour entrer dans le moule. Elle se réfugie dans la mauvaise foi. La liberté de l'homme, au contraire, nous pousse à devenir quelque chose, à être autre chose que des pantins, à exister véritablement, de manière authentique.
Je comprends.
Cela concerne en priorité nos choix en matière de morale. Pas question de rejeter la faute sur la nature humaine, la misère de l'homme et ce genre de choses. Mais si Sartre soutient que l'existence n'a pas de signification en soi, cela ne veut pas dire pour autant qu'il est heureux qu'il en soit ainsi. Il n'est pas non plus ce que nous appelons un nihiliste.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est quelqu'un qui considère que rien n'a de sens et que tout est permis. Sartre pense que la vie doit prendre un sens. C'est un impératif. Mais c'est à nous de donner un sens à notre propre vie. Exister, c'est créer sa propre existence.
Est-ce que tu peux développer ?
Sartre essaie de montrer que la conscience n'est pas quelque chose en soi avant de percevoir quelque chose. Car la conscience est toujours conscience de quelque chose. Et ce quelque chose est autant dû à nous-mêmes qu'aux conditions extérieures. C'est nous qui pouvons, dans une certaine mesure, décider de ce que nous voulons percevoir en choisissant ce qui a un sens pour nous.
Tu n'aurais pas un exemple par hasard ?
Deux personnes peuvent se trouver dans le même café et ressentir des choses complètement différentes. La raison en est que, dans ce qui nous entoure, nous donnons notre propre sens aux choses qui nous intéressent. Une femme enceinte, par exemple, aura l'impression de voir d'autres femmes enceintes partout. Ces femmes enceintes avaient beau être là avant, il aura fallu qu'elles attendent elles-mêmes un enfant pour les voir enfin. Qui sait si quelqu'un qui est malade en voiture ne voit pas autour de lui que des gens malades en voiture comme lui ?
Je comprends.
Notre propre existence conditionne donc notre façon de percevoir ce qui nous entoure. Si quelque chose ne signifie rien pour moi, il y a de grandes chances pour que je ne le voie pas. Bon, maintenant, je peux peut-être t'expliquer pourquoi je suis arrivé si tard. Tu as dit que tu l'as fait exprès. Mais dis-moi d'abord ce qui t'a frappé quand tu es entré dans ce café. J'ai tout de suite vu que tu n'étais pas là. Tu ne trouves pas un peu bizarre que la première chose que tu aies vue soit précisément quelque chose qui n'était pas là? Peut-être, mais c'est avec toi que j'avais rendez-vous. Appelle ça un petit exercice d'application, si tu préfères. Tu exagères. Si tu es amoureuse et que tu attends un coup de fil du garçon dont tu es amoureuse, tu entendras, peut-être toute la soirée, qu'il n'appelle pas. Aussi paradoxal que ça puisse sembler, c'est justement le silence du téléphone que tu entendras. De même, si tu dois aller le chercher à la gare et qu'une foule de gens descendent du train, mais pas lui, tu ne verras pas tous ces gens. Ils ne feront que te gêner car ils ne représentent rien pour toi. Tu les trouveras peut-être même insupportables et répugnants, qui sait? C'est fou la place qu'ils prennent soudain. La seule chose que tu enregistreras, c'est que lui n'est pas là. Je comprends. Simone de Beauvoir, elle, a essayé d'appliquer l'existentialisme à l'analyse des rôles sexuels. Sartre avait bien montré que l'homme ne peut se référer à une quelconque nature éternelle. C'est nous-mêmes qui créons ce que nous sommes. Oui, et alors? C'est la même chose quand il s'agit de l'image qu'on se fait des sexes. Il n'existe pas, selon Simone de Beauvoir, une nature féminine, éternelle, ou une nature masculine, éternelle. C'est pourtant ce que la conception traditionnelle veut nous faire croire. Il est tout à fait d'usage d'affirmer que l'homme a une nature qui aime à transgresser, une nature transcendante. C'est la raison pour laquelle il cherchera toujours un sens et un but hors de chez lui. La femme, au contraire, passe pour avoir une orientation de vie complètement opposée. Elle est immanente, c'est-à-dire qu'elle veut toujours être là où elle est. Son domaine, c'est la famille, la nature et toutes les choses proches qui l'entourent. Nous dirions de nos jours que la femme s'intéresse davantage à des valeurs douces que les hommes. Est-ce que c'était vraiment ce que pensait Simone de Beauvoir? Non, tu as mal écouté. Elle pensait justement qu'il n'existe pas de nature féminine ou de nature masculine, bien au contraire. Il était du devoir des hommes, selon elle, de se libérer de ses préjugés et de ses idéaux fortement ancrés. Là, je suis bien d'accord avec elle. Son livre le plus important parut en 1949, sous le titre « Le deuxième sexe ». Qu'est-ce qu'elle entendait par là? Elle pensait à la femme. C'est elle que notre culture a reléguée au rang de deuxième sexe. Les femmes étant réduites à n'être que des objets pour les hommes, eux seuls apparaissent comme des sujets. La femme perd ainsi la responsabilité de sa propre vie. Ah! Cette responsabilité, il faut la reconquérir. Elle doit se retrouver et ne plus lier son identité à celle de l'homme. Car l'homme n'est pas seul à opprimer la femme. Elle s'opprime elle-même en n'assumant pas la responsabilité de sa propre vie. Tu veux dire que c'est nous qui décidons si nous voulons être réellement libres et indépendants? Si tu veux. L'existentialisme a influencé la littérature à partir des années 40 jusqu'à aujourd'hui. Sans parler du théâtre. Sartre écrivit aussi des romans et des pièces. Il faut mentionner Albert Camus, l'Irlandais Samuel Beckett, le Roumain Eugène Ionesco et le Polonais Witold Gombrowicz. Le point commun de tous ces auteurs et de tant d'autres contemporains, c'est ce qu'on a appelé l'absurde. Leur théâtre est un théâtre de l'absurde. Bon, tu comprends ce que signifie le terme absurde, n'est-ce pas? Je crois que cela veut dire quelque chose qui n'a pas de sens, qui est contraire à la raison. Exactement. Le théâtre de l'absurde s'oppose au théâtre réaliste. Le but consistait à montrer sur scène l'absurdité de l'existence pour amener le public à réagir. Il ne s'agissait pas de cultiver l'absurde pour l'absurde, bien au contraire. En exposant, en mettant à nu le côté absurde de certains événements de la vie de tous les jours,
le public devait être contraint de trouver une forme d'existence plus authentique. Continue.
Ce théâtre de l'absurde met souvent en scène des situations tout ce qu'il y a de banal. On a pu à ce titre dire que c'était presque une forme d'hyperréalisme. L'homme est représenté exactement tel qu'il est. Mais si tu montres sur une scène de théâtre exactement ce qui se passe dans une salle de bain, un matin comme les autres, dans la maison de Monsieur Tout-le-Monde, je te garantis que le public est plié en deux. On peut interpréter ce rire comme étant une protection qui évite à chacun de se reconnaître mis à nu sur scène.
Je comprends.
Le théâtre de l'absurde présente parfois aussi des traits surréalistes. Les personnages sur la scène se retrouvent dans les situations les plus invraisemblables, comme dans un rêve. En voyant ces acteurs évoluer dans des conditions imposées, sans pouvoir manifester leur désaccord, le public, lui, est obligé de s'étonner et de réagir justement à ce manque de réaction. C'est la même chose avec les films muets de Charlie Chaplin. Tout le comique de ces films réside dans le fait que Charlot n'est pas surpris le moins du monde de se retrouver mêlé à des situations complètement invraisemblables. Par le biais du rire, les spectateurs sont contraints de s'interroger sur leur propre existence, qu'ils peuvent enfin voir avec une certaine distance.
C'est vrai qu'il y a vraiment des situations incroyables parfois, et personne ne proteste.
C'est important de prendre conscience qu'il faut se détacher de tout ça, même si l'on ne sait pas encore très bien comment s'y prendre et où aller.
C'est comme lorsqu'une maison est en feu. Il faut partir, même si on n'a pas encore une autre maison où habiter.
C'est ça.
Au fait, veux-tu une autre tasse de thé?
Ou peut-être un Coca-Cola?
Oui, merci. Je trouve que tu ne manques vraiment pas d'air de m'avoir fait poireauter si longtemps.
Libre à toi de penser ce que tu veux.